décédé. Voilà, il y en a un en tous les cas qui ne mourra pas à Corban. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son évasion.
Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de textes de prisonnières et prisonniers. Émission contre toutes les prisons. Message des proches.
La petite cuillère.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission La Petite Cuillère, émission anticarcérale sur Radio Canus 102.2 et Radio Duo 89.5. On vous rappelle que cette émission, c'est aussi une émission pour donner la parole à des personnes qui sont à l'intérieur des tôles ou des personnes qui soutiennent, qui sont proches de prisonniers ou prisonnières. Donc si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon, atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon, ou alors on a aussi un répondeur qui marche 24 sur 24, où vous pouvez soit nous laisser des messages pour des personnes incarcérées dans les tôles des alentours de Lyon et de Saint-Étienne. Le numéro de téléphone c'est 07 81 35 93 71. 07 81 35 93 71. Et si vous voulez aussi nous laisser des infos, vous pouvez nous laisser des messages sur ce répondeur. On les passera dans l'émission de la petite cuillère suivante. Voilà. Par ailleurs, on a aussi une adresse mail. C'est lapetitecuillere@riseup.net. Et de toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes ces informations et que vous avez des super choses à nous faire passer, n'hésitez pas à aller sur notre site internet, sur les blogs de La Petite Cuillère, et vous retrouverez toutes ces informations. Aujourd'hui, on va commencer l'émission en parlant des femmes en prison en Russie. Et on a une invitée spéciale qui va nous en parler.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, je vous rappelle que dernière fois, quand j'étais là, on a parlé des femmes en prison, du coup, de la justice pénale, du nombre de femmes qui sont en prison en ce moment, des meurtres des femmes en prison, les détentions arbitraires, les mauvais traitements, les harcèlements sexuels, les conditions de garde à vue, et etc., etc. J'ai parlé un petit peu des établissements, comment ça se passe, quel type de prison il y a en Russie. Et aujourd'hui, je voulais commencer par une petite histoire que j'ai entendue hier. En fait, mon ami m'a raconté comment les mineurs, les filles mineures passent à la prison, pour quelles raisons, par exemple. Du coup, l'histoire, c'est que c'est une connaissance. L'histoire, c'est que la jeune fille de 13 ans, elle a pris le vélo de voisin pour se promener, quoi. Du coup, je ne sais pas pourquoi, mais les voisins ont porté plainte, comme quoi elle a volé le vélo. Du coup, normalement, c'est la vol. Elle était accusée de vol. Et du coup, elle devait passer en prison, sauf que c'était remplacé par le fait qu'elle doit aller en ville et chaque jour et être présente dans le commissariat, dans le sens qu'elle doit elle doit signer quelque chose comme quoi elle est surveillée, quoi.
Ouais, comme un contrôle judiciaire, quoi.
Ouais. Sauf qu'en fait, la fille, elle habitait dans la campagne paumée avec la famille qui ne s'occupait pas du tout d'elle et qui n'ont pas eu d'argent. Du coup, elle n'a pas eu de quoi payer le bus. Du coup, elle faisait du stop d'habitude et ça se passait mal. Elle a vécu la violence et tout ça. Je rappelle que c'est la fille de 13 ans, quoi. Ouais. Et du coup, elle a fini par abandonner cette idée de venir chaque jour à la ville parce que c'était plus possible. Et du coup, elle est allée en prison, en fait.
Ah ouais.
Ouais.
À 13 ans.
Ouais.
Et ouais.
Voilà, pour les mineurs.
Il y a des prisons spéciales pour mineurs.
Oui, il y a une. Et en fait, du coup, comme j'ai parlé dernière fois, je trouve ça important, c'est qu'il y a une en Russie pour les filles mineures. Et du coup, ça fait que de toute la Russie, les filles, elles doivent aller là-bas. Du coup, aucune visite avec les proches possible.
Ouais.
Parce que qui va aller si loin pour... Bah, peut-être une fois par année, d'accord, mais pas plus, quoi.
Ouais.
Voilà, petite histoire. Et là, je veux bien passer à un truc plus précis, de parler de l'alimentation en prison, qui fait la peine, en fait, parce que l'alimentation est insuffisante et la qualité est vraiment répugnante. Par exemple, qu'est-ce que manque? C'est les produits laitiers, les fruits, les légumes. Même pour les femmes allaitantes, il n'y a pas de menu spécial, quoi. Du coup, ça fait que les détenus souffrent constamment de problèmes de digestion. Ils ont la chute des cheveux et la maladie de peau. C'est très fréquente. Parfois, parce qu'en fait, il y a les prisons mixtes entre femmes et les hommes. Du coup, parfois, les femmes, elles sont... ils se prostituent pour l'alimentation, en fait, juste pour manger mieux. Rarement, les familles peuvent apporter quelque chose à quoi manger dans la prison. Mais puisque ça peut être de l'autre bout du monde, c'est pas fréquent. Après, l'hygiène, ça fait aussi, c'est la source de maladies et c'est vraiment...
Excuse-moi, j'ai une question juste sur l'alimentation. C'est possible pour eux, nous en France on dit cantiner, d'acheter de la nourriture à l'extérieur?
En fait, il y a le petit magasin, mais pour acheter quelque chose là-bas, déjà elle n'est pas ouverte 24 heures sur 24. Après, il faut avoir d'argent. Et du coup, je vais parler plus tard de travail et de paiement, quel de salaire qu'elles reçoivent les femmes. Et du coup, c'est tellement insuffisant que plutôt, là tout de suite, je vais parler d'hygiène et des problèmes avec les serviettes hygiéniques. Elles n'ont pas accès. Justement, elles doivent acheter, mais il n'y a pas dans le magasin. Du coup, plutôt, elles vont dépenser ces argent au bout de savon ou parce qu'il n'y a pas assez de savon. À quoi se laver, il n'y a pas de shampoing, bien sûr que c'est juste le savon. Et du coup, ils vont dépenser argent plutôt pour ça. Ou... Je pense que c'est vraiment difficile et les magasins, il n'y a pas partout et ce n'est pas toujours ouvert. Et au niveau d'argent, ce n'est pas accessible. Voilà.
Ok.
Et du coup, en fait, le problème d'hygiène, il y a un gros problème d'hygiène, ce n'est pas que les poux, la gale. Mais c'est surtout l'absence totale de protection périodique. Parce que, en fait, l'idée, c'est, comme j'ai compris, l'idée, c'est que les femmes, elles sont considérées comme quelque chose comme genre, comme les hommes, par exemple, comme quelque chose, la norme, c'est l'homme, en fait, et les hommes, ils n'ont pas les règles. Et du coup, c'est pas du tout adapté à la femme, la prison. Dans le sens hygiénique. Déjà, il n'y a pas de serviettes hygiéniques ni tampons. Du coup, les femmes, elles sont obligées d'utiliser les bouts de matelas, les bouts de ses vêtements, les bouts de, je sais pas, de draps pour utiliser comme serviettes hygiéniques. Dans les magasins, c'est souvent, soit elles n'ont pas d'argent, soit pour acheter, soit il n'y a pas de serviettes hygiéniques dans le magasin. Après, pour laver ceux qu'elles ont utilisés comme, par exemple, les bouts de vêtements, les bouts de matelas. Ou, par exemple, si j'ai entendu une histoire, c'était ils ont utilisé comme tampon le coton de la fabrique de couture. Du coup, c'est le coton de mauvaise qualité et ça provoque les maladies. Et, mais ce n'est pas adapté du coup, du tout pour mettre dedans, quoi. Et du coup, aussi, il y a le problème de laver les draps, laver la linge, laver les sous-vêtements, laver du coup les morceaux de tissu qu'elle utilise. Parce que tu ne peux pas laver en fait à l'intérieur de ta cellule. C'est parce que, en fait, tu ne peux pas sécher à l'intérieur de ta cellule. C'est interdit quoi. Déjà, souvent c'est interdit de laver et souvent c'est interdit de sécher. Du coup, si tu arrives à laver en cachant, quoi, parce qu'il y a le lavabo, bah, d'habitude. Tu sèches sur toi. Mmh. Tu mets direct et tu sèches sur toi. Même si tu arrives à la pendre, dans le sens mettre à sécher dans la cellule, c'est tellement humide d'habitude les cellules que l'humide soit hyper froid que ça ne se sèche pas. Du coup, il y a un gros problème à ce niveau-là. Genre, ça arrive chaque mois pour beaucoup de femmes et du coup, c'est vraiment un gros problème, je trouve. Et aussi, tu peux laver ça à l'extérieur dans la lingerie. Pas à l'extérieur, dans la prison, mais à la lingerie. Mais c'est une fois par semaine. Et peu importe si tu as le cycle ou pas, si tu as eu tes règles ou pas, tout le monde s'en fout. Et après, ils refusent aussi de laver tes propres vêtements. Ils ne lavent que les vêtements, les habits qui sont, et les draps qui sont à la prison. Voilà. Aussi l'histoire de se laver aussi, peu importe t'as les règles ou pas, c'est une fois par semaine et c'est tout quoi, avec un petit bout de savon qui risque de finir avant que tu par une par mois qui risque de finir oui. avant que t'as fini ton mois quoi. Et en plus en fait ils demandent, c'est pas juste le problème d'hygiène. Mais c'est aussi, tu risques d'être pénalisé si tu n'es pas assez propre. Du coup, il t'oblige d'être propre, sauf qu'il ne te donne aucune possibilité d'être propre, en fait. Assez absurde. Alors, aussi, je voulais remarquer que dans la cellule, il y a un seul lavabo. Et cellule, ça peut être 30, 50 de tenues dedans.
Ouais, c'est des dortoirs en fait.
Dortoirs, oui.
Ouais,
il y a une lavabo pour tout le monde et il y a une toilette qui n'est pas séparée de la reste de la cellule, de la reste de dortoir. Du coup, c'est sympa quoi.
Du coup, tout le monde te voit. Et
ouais.
Ouais.
Exact.
C'est pratique.
Oui, c'est très sympa.
Ça, le mot pratique, il est parfait.
Parfois, les cellules ne sont pas aussi équipées de l'eau chaude. C'est intéressant aussi. Du coup, tu peux pas même te... Je peux laver un petit peu avec l'eau chaude.
Si tu as une douche par semaine et que tu veux un petit peu te laver en dehors de ta douche par semaine, ça devient compliqué, quoi.
Ouais.
Surtout qu'il y en a beaucoup, il fait froid et humide, comme tu disais. Du coup, ouais, ça peut être...
Exactement. Il y a grosse, du coup, il y a gros problème de soins aussi, et gros problème de maladie. Le problème de soins, ça, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de médicaments nécessaires. Personne t'apporte les médicaments. Surtout, je ne parle pas même de, par exemple, les problèmes psychiatriques. Moi, j'ai lu qu'il y a 20% des femmes qui entrent dans la prison avec des problèmes psychiatriques en Russie. Et du coup, il n'y a aucune aide. Du coup, tu ne peux pas recevoir tes médicaments que tu prenais, par exemple, avant. Aller en HP, parce que tu peux être envoyé en HP dans le cas vraiment urgent. Mais tout le monde dit qu'en HP, c'est encore pire. Du coup, qu'ils te chutent avec les médocs. Mais c'est un peu l'autre sujet. Qu'est-ce qui se passe en HP en Russie? Mais du coup, il y a aussi indifférence et l'incompétence des médecins. Les maladies les plus fréquentes, c'est les troubles gynécologiques. Bah, et c'est assez évident, quoi. Si souvenir de quoi je parlais avant. La tuberculose, l'hépatite. Les maladies cardiovasculaires et gastro-intestinales. Après, il y a aussi le problème que les femmes malades avec les maladies contagieuses ne sont pas séparées souvent des autres femmes qui ne sont pas malades. Du coup, comme ça, ça passe d'une à l'autre. L'autre question, c'est aussi le problème de VIH. Il y a pas mal de femmes avec VIH. Et du coup, elles sont isolées. genre comme si, bien que c'est plus logique, je trouve que, par exemple, avec tuberculose, si c'est la forme ouverte de tuberculose, là, peut-être l'isolement, ça peut marcher dans quelque sens. Mais VIH, je ne vois vraiment pas. Et du coup, elle ne reçoit aucune aide adéquate. Il n'y a pas le traitement pour les VIH. Donc, tu peux mourir comme ça sans problème. Voilà, j'ai trouvé le nombre des femmes malades de tuberculose de la forme active. C'est 3-5%. Et tout ça, par exemple, ce que je dis par rapport à maladie psychiatrique ou maladie, etc., etc., c'est, il n'y a pas en fait la statistique. C'est que les gens qui font le survey, comment dire, le...
Ouais, c'est ceux qui bossent dans les prisons qui donnent ces chiffres-là ou c'est,
c'est les gens qui viennent dans les prisons pour observer.
Ouais, les observateurs.
Pour contrôler. Prison, ouais, les observateurs, c'est les eux qui disent ces chiffres-là. Aussi, par rapport au travail, si tu es malade ou quoi, souvent tu continues de bosser, bien que c'est interdit normalement. Par la loi, c'est interdit d'utiliser comme travailleuse les femmes malades. Surtout que là, tu travailles vraiment 12 heures par jour, quoi. Du coup, c'est très difficile. Pourquoi c'est souvent ils croient, pourquoi souvent ils travaillent quand même, c'est parce que en fait, ils croient pas que la femme est vraiment malade. Ils pensent qu'elle simule.
Ouais.
Et souvent c'est le cas. Mais pourquoi c'est le cas? Parce que en fait, c'est la forme de faire quelque chose avec ta vie. Si le travail est vraiment, c'est en fait c'est esclavage. Du coup, carrément, je vais parler plus tard. Du coup, c'est pas surprenant qu'il y a des gens, qui, des femmes qui simulent les maladies, qui préfèrent de l'automutilation aussi, qui préfèrent de se couper le doigt ou je sais pas quoi, pour juste pas, pour pas aller travailler. Je voulais parler aussi des femmes enceintes. Bien sûr, il y a aucun régime spécial pour les femmes enceintes. Bah, je pense qu'elles sont pas obligées de travailler, mais l'alimentation c'est la même. Du coup, quand tu es enceinte, normalement tu peux recevoir plus de vitamines au monde. Du coup, il manque de vitamines, etc. Il n'y a aucun régime spécial. Et ce qui me choquait le plus, c'est comment ça se passe les accouchements. Qu'en fait, les femmes enceintes sont généralement transférées à l'hôpital au moment où leur contraction commence. Du coup, c'est au dernier moment. Et toujours, elles sont amenées sous escorte. Et si cela est considéré comme nécessaire, minotées. Et souvent, je ne sais pas à quelle fréquence, mais souvent, quoi, les accouchements se passent aussi avec... tu restes minotée, en fait. Super, pendant l'accouchement. Et du coup, je voulais lire un texte intéressant. C'est le témoignage d'une meuf qui était en prison et qui devait accoucher. Et du coup, elle a écrit ça, elle a raconté ça. Je leur ai demandé de pouvoir rentrer chez moi pour accoucher, mais ils n'ont pas voulu. J'ai commencé à saigner, je n'ai pas eu de contraction, mais je saignais terriblement. J'ai frappé à la porte de la cellule et je leur ai demandé d'appeler une ambulance. Le surveillant de service demande « Est-ce que tu as des contractions ?» Je réponds « Non, mais il y a du sang qui me coule le long des jambes. Attends jusqu'à demain. » Il était minuit. Il dit qu'ainsi, il n'aurait pas besoin d'appeler une ambulance pendant sa garde. Tous mes draps étaient déjà trempés de sang. Les filles les enlevaient du lit et les essoraient dans le seau. Les filles frappaient au mur vers les mecs et leur criaient à travers la fenêtre. Les gars cassaient la porte. L'aile est en train de voir son gosse et le maton ne veut pas s'occuper d'une ambulance. Les mecs ont tout commencé à frapper à la porte. Il était presque 4 heures du matin. À 4 heures, les gardiens sont allés chercher une femme dans une des tours de garde pour qu'elle aille regarder ce qui m'arrivait. Elle a jeté un coup d'œil et dès qu'elle a vu ce seau plein de chiffon et de sang, elle a crié au maton en face de moi. « Qu'est-ce qui te prend ? Appelle une ambulance immédiatement, elle va y passer d'un moment à l'autre. Soit elle, soit bébé, soit son bébé. » Et ils disaient encore les trucs comme « Bon, si le bébé meurt, Dieu merci. » Voilà, petit témoignage.
Est-ce qu'on se fait une petite pause musicale après ce...
Ouais, on peut s'écouter une petite musique. Sur Radio Canus 102.2, l'émission La Petite Cuillère, et 89.5 à Saint-Étienne. Et on était en train de parler des conditions de détention des femmes en Russie. Là, tu nous parlais des conditions d'accouchement.
Ouais, choquant, ouais. Je trouve. Et après, je voulais juste dire deux, trois mots par rapport. On peut parler longtemps, en fait, par rapport au accouchement, etc., comment ça se passe à la prison et par rapport aux enfants, dans quelles conditions les enfants restent à la prison, mais on n'a pas assez de temps pour tout ça. Et du coup, je vais juste dire deux, trois mots. C'est en fait, les enfants, quand tu as ton gosse, tu es à la prison, tu peux confier ton enfant jusqu'à l'âge de 3 ans au nursery. Et du coup, normalement, tu peux le voir. Mais c'est une fois par jour pour 2 heures, je crois. C'est pas tout le temps quand tu veux, et c'est dehors de ton travail. Genre, tu travailles. Ah, j'ai oublié de dire un truc intéressant, en fait. Quand tu as accouché, dans 2 heures, tu reviens en prison. Mm-hmm. Tu es accouché à l'hôpital, dans 2 heures, tu es en prison.
Ouais, tu restes pas en observation.
Non,
des
rien.
Problèmes ou pas de problème, ils te ramènent en prison direct. Quoi.
Ouais, en plus, je trouve que, mais quand même, tu viens d'accoucher, 2 heures, c'est rien.
Bah ouais.
C'est carrément rien.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, après, l'enfant il est enlevé à la mère, et mm-hmm. c'est d'autres femmes qui vont s'en occuper.
Oui, parfois c'est aussi les prisonnières qui s'occupent, qui travaillent genre là-bas avec des enfants, mais t'es jamais avec ton enfant, quoi. Mm-hmm. C'est juste une fois par jour. Si t'es puni, par exemple, pour quelque chose, par exemple, je sais pas, t'as parlé quand il fallait pas, t'étais un petit peu rude avec les gens qui bossent à la prison, voilà, tu vas, t'es puni et tu peux plus voir ton enfant. Du coup, t'as pas d'intérêt de déconner si t'as un enfant. Ils te contrôlent vachement par ton enfant, en fait. Mm-hmm. Et aussi, l'histoire, j'ai entendu aussi par rapport au biberon, c'est parfois tu arrives pas à alimenter ton enfant ou tu veux pas justement alimenter ton enfant avec tes seins, avec ton lait, et du coup, il te faut les biberons. Sauf que parfois, elle le donne pas. Et là, je lis une histoire d'une meuf qui a alimenté son enfant 2 mois avec du pain mâché. Parce que, en fait, la prison ne donnait pas les biberons. Super.
Ouais.
Après, je voulais bien passer aux punitions, en fait. Déjà, les femmes, elles sont tout le temps mélangées. Elles passent d'une cellule à l'autre, tout le temps. Et c'est pas la punition, c'est pas considéré comme punition. Juste le matin, tu te réveilles et voilà.
Fais tes affaires, change de
ouais,
cellule. Et,
exact. Voilà. Du coup, si t'as fait. Je pense que c'est imaginable comment c'est difficile d'entrer dans le nouveau collectif, quoi. Comment c'est difficile de Bah, c'est horrible, je trouve, cette mélange sans arrêt.
Ah, c'est déstabilisant.
Ouais, c'est pour complètement déstabiliser, pour que tu n'arrives pas de faire les contacts avec des autres prisonnières. Du coup, pour que tu puisses pas monter, je sais pas, le crew, je sais pas quoi.
Ouais, pas t'organiser, pas avoir de solidarité.
Exact.
Pas avoir rien du tout, quoi. Être isolé et encore plus isolé qu'isolé, quoi.
Oui, exactement. Après, du coup, si t'étais, si t'as travaillé, mais t'as pas fait, par exemple, tu dois coudre. T'as pas cousu assez des fringues. Du coup, tu vas en, en cellule spéciale. Qui est isolée, t'es toute seule là-bas.
Ouais.
Du coup, si t'as fait ça, si t'as refusé de travailler, ça c'est très important, si tu refuses de travailler, c'est fin du monde, ils considèrent ça comme fin du monde, parce qu'ils t'utilisent bien comme esclave, du coup tu dois continuer comme esclave, tu peux pas refuser. Si t'as parlé mal aux gens qui travaillent là-bas, si t'as parlé mal aux tes voisines, si t'as fumé dans le... dans l'endroit où il ne faut pas, ou si tu as eu la relation lesbienne avec une autre prisonnière, et plein de trucs comme ça, tu vas dans le dans la cellule de punition ou d'isolement. Normalement tu dois rester là-bas jusqu'à, tu peux rester là-bas jusqu'à 15 jours, mais sauf que dans les camps cette sanction peut être prolongée jusqu'à 3 mois.
Et voilà.
Toute correspondance et visites sont interdites, compris, comme j'ai dit avant, des enfants. Tu peux pas, c'est interdit de voir ton enfant. Tu peux pas recevoir des colis. Les cellules de punition, c'est vraiment une grosse histoire, parce qu'en fait, c'est hyper humide, hyper froide. Ils te donnent la jupe et l'eau assez froide aussi, pas trop chaud. Ils te donnent pas les collants. Pourquoi ? Parce que tu vas te pendre avec.
Mmh.
Ils disent, genre. Et en fait, l'histoire, c'est que tu as une lit dans ta cellule, sauf que toute la journée, sauf les 6 heures pendant la nuit, elle est attachée à la mur. Du coup, tu n'as pas où s'asseoir, en fait.
Ah ouais, c'est eux qui attachent ton lit, qui le cadenassent et qui viennent te le défaire le soir, quoi.
Oui. Mmh. Du coup, tu es obligé en jupe, par exemple, l'hiver, hyper humide, hyper froide. T'es en jupe, tu dois t'asseoir direct sur le sol cimenté, quoi.
Ouais.
Moi, je trouve que c'est horrible, c'est torture, quoi.
Ouais.
Et tu peux pas, si tu veux dormir, tu dors par terre, quoi.
C'est torture dans la torture, quoi.
Ouais, c'est torture dans
Parce
la torture.
Les quartiers d'isolement, c'est reconnu comme une torture aussi.
Mmh, mmh, mmh. Et il y a des rats, par exemple, dans les cellules comme ça.
Mmh, mmh.
Du coup, bah super, tu dors par terre avec des rats. Les femmes sont fouillées 2 à 3 fois par jour. Du coup, tu sors juste pour être fouillée. Après, c'est pas que les... aussi, je voulais dire que les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent pas être... C'est interdit de les enfermer dans les cellules de punition. Sauf que ce n'est pas le cas, bien sûr, elles sont enfermées souvent.
Ouais.
Après, contrairement aux dispositions de la loi, la contrainte physique est employée comme moyen de punition aussi. Là, je lis des instruments tels que menottes, matraques, canon à eau, chiens de garde ou gaz lacrymogène sont utilisés. L'exposition à une lumière vive ou à des sons de haut décibels est employée comme moyen de contrainte. Et tu peux en fait rien faire, parce que si t'es puni, t'as pas accès à ton avocate aussi.
Ça, c'est dans les cellules d'isolement aussi qu'ils utilisent les gaz, qu'ils te mettent de la musique forte et tout ça, de la lumière forte et tout ça. C'est aussi
ça, j'ai pas compris. Je pense que ça peut arriver juste pendant que t'es dans les cellules normales. Ils t'invitent à parler, genre.
Ouais.
Souvent aussi, c'est une des moyens de voir les femmes qui vont dénoncer les autres femmes. C'est qu'elle torture, elle te torture jusqu'à que tu dis oui, d'accord, je veux dénoncer qui vous voulez, quoi.
Ouais, là. C'est des moyens de pression, quoi.
Ouais.
En général.
Mm-hmm.
Okay. Mais une fois, par exemple, en France, on m'avait raconté que c'était dans une prison pour mineurs. Un jeune, il était super en colère contre les autorités. Et ben, les gens, ils ont gazé sa cellule de 9 mètres carrés.
Pas de problème.
Pas de problème, quoi. Mm-hmm. Du coup, ouais, ça doit être utilisé comme ça pour calmer les gens, en fait.
Mm-hmm.
Ça doit te calmer.
Ouais, ça doit rendre bien vénère aussi. Quand même.
Ouais. Et quand même, bien que ça existe tout ça, il y a des actes de contestation. C'est quoi, du coup? C'est grève de faim, les tentatives de suicide, des automutilations, des tentatives d'évasion et des mutinières et de mutinières.
Mutinerie,
merci. En fait, donc, souvent, elle conteste contre l'absence de droit à visite, parce qu'elle veut voir les proches, qu'elles ne peuvent porter aucune plainte contre les vigiles, quoi. Vigiles, on dit, ou
les matons,
surveillantes, quoi, surveillantes. Du coup, voilà, tout ça, des problèmes d'alimentation, les problèmes pour les femmes enceintes, femmes malades, etc., etc. Souvent, si tu fais ça, bien sûr, t'es puni. Et tu vas dans le... Du coup, imaginons, là, je lis une histoire, jeune fille qui s'ouvre les veines sont placées en cellule disciplinaire. Voilà. C'est ça, les réponses, en fait. Je voulais parler un peu de travail, que je trouve, ce sujet, je le trouve assez important, parce que pour toutes les femmes condamnées, le travail, il est obligatoire. Sauf les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes malades, les femmes handicapées et les femmes retraitées. Mais comme j'ai dit avant, ce n'est pas toujours suivi cette règle. Et en fait, tu bosses 10-12 heures par jour. Par exemple, à la fabrique, tu coudes. Et souvent, tu coudes les uniformes. Vous dites ça? Uniformes pour les flics.
Ouais. Ah, super. Ouais. Tu vas coudre les uniformes des flics en tôle. Ça, c'est vraiment génial.
Ouais, c'est absurde, quoi. Et du coup, en fait, pourquoi t'es hyper mal payé, super mal payé. C'est vraiment rien. Moi, je sais pas les chiffres précis, mais si comparé à la salaire normal, même en Russie, bien que le salaire normal en Russie, c'est vraiment rien, le salaire minimal. Du coup, là, le salaire en prison, c'est encore rien de rien, quoi. C'est vraiment nul.
Par exemple, si on peut faire une comparaison avec la France, je crois que c'est moins de 2 euros que tu es payé de l'heure en prison en France pour 9 euros le SMIC maintenant. Mm. Du coup, on peut faire si.
Et encore, souvent, ils sont payés à la pièce. Les gens, par exemple, s'ils font des jeans, et ben, c'est un jean, tu seras payé tant, mais du coup, tu ne seras pas payé à l'heure, mais au truc que tu fabriques. Quoi.
Mm-hmm. Du coup, si tu n'es pas professionnel, si tu ne sais pas coudre du tout. Bah, tu finis
t'es payé
par
encore plus rien.
Ouais. Et en fait, pourquoi en fait, le matériel avec lequel tu travailles à la prison, c'est souvent hyper nul. C'est hyper ancien, hyper pas en qualité. Et tu dois travailler hyper, hyper vite et faire au plus vite possible. Parce qu'en fait, la demande, elle est comme ça. Faire maximum de fringues au plus vite possible. Bah, il y a des deadlines et tout ça. Et du coup, la seule usine qui peut répondre à ces besoins-là, c'est la prison. Parce qu'aucune autre usine va accepter ces conditions-là. Du coup, c'est vraiment un esclavage.
Mmh. Oui, tu veux dire que dans les autres usines, les ouvriers, ils accepteraient pas ces conditions de travail.
Ouais. Après, à part le travail, en fait, t'as aucune autre activité à part, surtout dans les, je sais pas comment vous appelez ça, je veux dire. Centre de détention préventif, voilà. Centre de détention préventif, t'as aucune activité à part la télé. Tu peux regarder la propagande de matin jusqu'à le soir, pas de souci. Bah, sauf si t'es puni, bien sûr. Mais danser, chanter et écrire et dessiner, c'est carrément interdit.
Je trouvais ça intéressant. C'est interdit, quoi.
Ouais, mais comment ils font pour vérifier ça? Ils sont derrière toi.
Ils peuvent entrer n'importe quel moment.
Et ouais.
Et t'as pas le matériel. C'est déjà, il y a un gros problème. Par exemple, si tu veux porter plainte contre le surveillant ou surveillante, il faut avoir le stylo au moins et le papier, sauf que tu n'as pas.
Ouais. Forcément.
Ouais.
Alors, le temps, il se raccourcit. Il nous reste 4 minutes, un petit peu moins pour...
Ouais, en fait, j'ai presque fini. Je voulais juste dire que... il y a aussi...
C'est hyper intéressant. Hein. Je dis pas...
Tu peux aussi aller à l'église, en fait. Mais sauf qu'il n'y a que l'église orthodoxe. Et si tu n'es pas orthodoxe, bon, bah, tant pis, quoi.
Ouais.
Voilà, les activités télé et l'église.
Ouais,
voilà, en fait. Ouais.
C'est clair, moi.
La propagande.
Oui.
Si tu termines là-dessus...
Oui, on va terminer ici.
Ok, merci beaucoup d'être venu.
De rien.
Ouais.
On se remet une petite virgule musicale. Et puis on se dit à tout de suite. Raté, c'est pas celui-là. Après avoir écouté un extrait de Arianna Monteverdi et Baby B qui nous chantaient Cool Water.
Des chanteuses lyonnaises.
Eh ouais.
Et on va partir sur la deuxième partie de l'émission à partir d'un reportage qui a été fait dans un bar avec le collectif de mineurs étrangers et étrangères jeunes majeurs de Lyon. Entre une manifestation contre la loi travail et des rendez-vous pour d'autres. Alors, pendant ce rendez-vous, on se présente, on voit ce qu'on a de commun entre une émission contre les prisons et un collectif luttant pour la régularisation des mineurs étrangers. Et malheureusement, c'est la criminalisation. L'aide sociale à l'enfance dans le Rhône suspecte les migrantes de mentir sur leur âge malgré des preuves papier et leur fait subir des tests d'âge osseux. Si ces tests prouvent qu'ils ont plus de 18 ans, ça les envoie direct dans la case prison. Des fois, c'est une mise du sursis. À l'automne dernier, 3 adolescentes ont été à la prison de Corba. Un autre y a aussi été et puis a été expulsé de France. Suite à des communiqués que ce collectif avait envoyés, ça nous a interpellés et on a voulu leur donner la parole et en savoir un peu plus sur ce que c'était, ce que mettait en place l'État à travers ces tests osseux. Alors on va écouter deux militantes qui sont des soutiens et une adolescente qui subit actuellement cet acharnement de l'aide sociale à l'enfance nous expliquer un peu tout ça. Les trois font partie de ce collectif. Reportage dans un bar.
Alors les tests osseux, c'est plus exactement les tests d'âge osseux, c'est un des moyens actuellement utilisés en France et spécialement et aussi à Lyon donc pour transformer les jeunes migrants qui arrivent et qui se disent mineurs en délinquants qu'on va pouvoir condamner. On fait passer ces examens donc à des jeunes qui se disent mineurs, qui arrivent ici, qui sont mineurs, qui ont besoin d'être protégés comme la loi le prévoit, avec un toit, des éducateurs, etc. Donc ces jeunes arrivent, tout de suite on les suspecte de mentir. C'est une politique générale qui est à l'œuvre à l'heure actuelle dans le pays. La suspicion généralisée sur leur récit, sur ce qu'ils disent, on considère qu'ils mentent. Et pour donner un petit vernis scientifique, enfin pseudo-scientifique, à cette accusation de mensonge, on leur fait passer des tests osseux qui vont déclarer que les jeunes ne sont pas mineurs comme ils le disent, mais sont majeurs. Voilà, à partir de là, s'enclenche toute une procédure donc qui mène les jeunes, et en tout cas à Lyon c'est systématique, les jeunes sont ensuite menés au tribunal correctionnel en comparution immédiate, où ils sont accusés d'escroquerie, parce que on estime qu'ils ont volé l'argent du département. En bénéficiant de la prise en charge qu'on leur a donnée pendant quelques mois, on estime donc qu'ils ont volé l'argent de la collectivité et on les condamne. Alors soit on les condamne avec sursis, soit on les condamne à de la prison ferme. Et au début, à l'époque où RESF a découvert ces pratiques, c'est bien parce que des lycéens étrangers, en particulier un. Donc, on a commencé avec un jeune lycéen qui se retrouvait à la prison de Corba suite au test osseux qu'on lui avait fait passer. Voilà. Donc, depuis 2-3 ans, régulièrement, on a affaire à ce genre de situation de jeunes qui passent des tests osseux suite à des décisions. En général, ce sont les juges qui décident de leur faire passer ces tests ou bien le parquet à partir d'une suspicion qui, elle, commence au moment de leur accueil par l'aide sociale à l'enfance à travers cette structure qu'on appelle la MEOMI. Mission pour l'évaluation et l'orientation des mineurs isolés étrangers. Voilà. Donc, c'est ça les tests osseux. En gros.
Alors là, on est avec une fille qui est en France, qui est camerounaise, qui a subi des tests osseux et qui va un peu nous expliquer comment ça s'est passé pour elle. Je te laisse te présenter.
Bonjour, moi c'est Fanny. Je suis une jeune Camerounaise de 16 ans, maman d'une petite fille de 2 mois et demi déjà. Quand j'ai passé les tests osseux, ma fille, elle avait 1 mois et demi. Déjà, les tests osseux, ça se présente de façon... Le français... on te fait la radio des mains. Ensuite, il y a une radio des dents. Ensuite, il y a un scanner. Et la radio des dents et après la radio des dents, on m'a fait faire une autre radio où on me faisait muscler les épaules et tout. Avant d'aller passer le scanner, j'ai fait un examen de musculature. Et quand j'ai fini ça, je suis rentrée, retournée avec les résultats à Grange Blanche, à Edouard Herriot, voir le professeur, un professeur qui m'attendait là-bas avec les résultats. Déjà, je ne savais pas qu'il y avait un autre examen que je devais refaire là-bas, soi-disant examen de physiologique, un truc de ce genre. Où là-bas, ça a été la catastrophe. J'ai été humiliée non seulement, et puis ça m'a fait revoir les souvenirs néants que j'ai dans ma famille, les souvenirs où c'était vraiment pas... J'ai eu des cicatrices sur mon corps où une fois qu'on me demande, on me pose des questions sur ces cicatrices, ça me fait revoir cette scène comme si c'était hier et tout. Du coup, il m'a demandé de me déshabiller. Il comptait mes cicatrices sur le corps. Il me dit, j'ai des petits tatouages qu'on fait chez nous comme une tradition. Quand on finit de te faire cette tradition-là, on te fait des signes pour dire que tu as reçu. C'est un peu comme, je sais pas comment vous expliquer, mais quand tu finis de faire ça, on te met des crasses sur le corps pour dire que tu l'as, quoi. Et il dit que je ne pouvais pas supporter cette douleur, vu qu'un enfant de cet âge, vu l'âge qu'on me l'avait fait, qu'un enfant de cet âge ne pouvait pas être susceptible de supporter cette douleur. Et après, il m'a dit que je suis mature, j'ai accouché. C'est ça que j'ai compris. Et je lui ai dit qu'au foyer chez nous, il y a des filles qui ont des enfants, elles ont 13 ans, donc elles aussi, elles sont matures. Et là, je n'ai pas eu de réponse après. Et il y a quelques jours, j'ai eu le résultat de ma radiographie des mains, où il déclare sur ce résultat que j'ai 17 ans ou plus. Donc, je n'ai pas encore les résultats de la radio, des épaules, le scanner et les dents. Je n'ai pas encore les résultats.
Et c'est long, les résultats?
Les résultats, généralement, c'est la juge qui va me donner les résultats. Donc, je ne suis pas au courant, je ne sais pas comment ça se passe, mais... Pour d'autres jeunes de l'association, ils étaient quelquefois accompagnés par des policiers. Et quand eux, ils racontent, on ne leur donne même pas le choix d'accepter ou de ne pas accepter. On les impose de le faire. Et moi, on ne m'a pas vraiment imposé de le faire. Mais ils m'ont harcelé de le faire parce que là, moi, j'ai vécu ça comme un harcèlement. Comme quoi, si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? J'étais obligée de le faire, mais sinon, volontairement, je n'étais pas d'accord de le faire vu que j'ai des papiers légaux de mon pays, que mon pays, on m'a délivré des papiers. J'étais venue en France. Légalement, j'avais eu un visa, j'ai mon acte de naissance, j'ai mon passeport, j'ai une pièce d'identité de mon pays. Et après, on me dit qu'il faut passer les tests osseux où on me donne 17 ans. Pourtant, moi, je n'ai pas eu un acte de 17 ans, j'ai pas un acte qui a plus que ça. J'ai le papier de mon pays. Quand je suis née, on me l'a fait. Et avant ça, je ne sais pas. D'autres jeunes de l'association, les tests disent souvent, pour la main, peut-être ça donne un 19 ans. Après l'épaule, ça peut donner un 24 ans. Les dents, ça donne 26 ans. Donc, ça sépare souvent le corps humain. Donc, pour moi, les tests osseux, c'est juste une stratégie pour nous mettre dehors, nous, les jeunes mineurs isolés. Et tout. Et quand c'est comme ça, nous, la France, ils disent qu'ils ont le droit de nous protéger, mais là, on ne nous protège plus, on est en train de nous d'ajouter le chromatisme à ce qu'on est déjà en train de vivre. On vient de nos pays, nous sommes déjà assez chromatisés. on arrive, on vit encore le stress du fait qu'on n'est pas avec nos parents, on n'a personne de nos familles sur place. Et après, on se retrouve encore, d'autres qui se retrouvent face à la police, qui ont des convocations, qui sont enfermés, d'autres qui n'arrivent pas là à l'école. Et tout, donc c'est tout ça qui ça nous traumatise encore, ça nous traumatise plus quoi.
J'ai eu une nouvelle question, mais je crois qu'en fait les tests osseux aussi c'est, ils comparent avec.
Alors les tests osseux, c'est plus exactement les tests d'âge osseux, c'est les espèces poumons qui arrivent et qui se disent mineurs.
Alors, on a eu, comme vous pouvez le remarquer, un léger problème technique.
La question, elle était sur les tests osseux, en fait, ils sont, c'est une méthode qui a été, où on allait nous expliquer, en fait, qu'est-ce que c'était comme truc scientifique, les tests osseux. Parce que c'est un peu bizarre, comme ça, de savoir ça. Et en fait, c'était des tests qui étaient faits pour des maladies, alors je me rappelle plus pour qu'est-ce, mais c'était à but thérapeutique. Et c'était fait aux États-Unis au début du XXe siècle, vis-à-vis de corps blancs américains qui avaient plutôt des conditions de vie confortables. Et c'était dans un but thérapeutique. Et là, ça a été détourné à des fins, en fait, de contrôle social. Pas du tout pour le même truc. Et là, la militante allait nous expliquer, en fait, comme ce que nous disait déjà Fanny, les écarts qu'il y a entre les différentes parties du corps qu'ils prennent, et après ils font une sorte de moyenne entre tout, du coup, entre la, comme ce qu'elle nous expliquait. Voilà, mais peut-être on pourra s'écouter la fin du reportage une autre fois. En tout cas, Fanny, elle concluait par la nécessité de se battre, de dire non, de refuser, et notamment de se battre contre ces têtes osseuses qu'elle trouve complètement humiliants, et qui elle voilà, du coup elle voudrait se battre pour qu'ils n'existent plus en France. Voilà, pour que les autres gens ne subissent pas ce qu'elle a subi et ce que elle et ses camarades et les gens qu'elle connaît subissent actuellement en France. Et oui, vous êtes toujours sur La Petite Cuillère, le reportage où on vous le mettra en dehors de l'émission, comme ça vous pourrez écouter notre émission, puis le reportage à côté, et on le fera diffuser sur d'autres médias. Et voilà.
On va vous faire notre petite brève avant,
ouais,
de vous laisser.
On s'écoute les petites jingles des brèves.
Mais grave.
Leur force, nous faire croire que leurs murs sont infranchissables. Notre force, montrer que chaque jour, des personnes arrivent à les contourner, les franchir et détruire un petit peu. La lime à ongles, une rubrique sur toutes les évasions.
On commence cette rubrique Lime à ongles avec une centaine de prisonniers qui ont profité du tremblement de terre survenu samedi 16 avril en Équateur pour s'évader. Et ouais, les forces de la nature sont parfois des bonnes aides pour les évasions massives. Une trentaine de ces évadés ont été rattrapés peu de temps après, mais les autres, a priori, courent toujours. C'était dans la prison de Porto Viejo, dans l'ouest de la province de Manabí.
Lundi 18 avril au matin, un prisonnier en semi-liberté à la tôle du Pontet vers Avignon a profité d'un chantier extérieur de l'établissement pour se faire la belle.
Et le 18 avril toujours, à la prison du Port à La Réunion, les détenus en fin de peine ou dits sans dangerosité particulière sont autorisés à circuler dans la cour durant la journée. Le nouveau pensionnaire qui venait d'arriver n'a pas attendu longtemps avant d'escalader le premier grillage d'enceinte. Passant les barbelés moins d'une demi-heure après son arrivée, il s'est retrouvé sur le chemin de ronde entre les deux clôtures. Rapidement prévenu de sa disparition, des matons à bord d'un véhicule de patrouille l'ont rattrapé moins de 10 minutes après, alors qu'il s'apprêtait à franchir la deuxième clôture, beaucoup plus haute. S'y était presque.
Un homme s'est évadé du tribunal de grande instance de Nantes le 20 avril en pleine audience. Il a pris la fuite à 20h30, juste après sa condamnation à 3 ans de prison ferme. Il a réussi à tromper la vigilance des policiers qui s'apprêtaient à lui repasser les menottes et à le conduire dans les geôles du palais. Il a alors bondi hors du box, a réussi à s'échapper par l'une des portes de la salle d'audience, puis a quitté le tribunal en donnant un coup contre une issue de secours. Bravo!
Pas mal! Et maintenant, on passe à Ceuta, où, profitant de la marée très basse du samedi 23 avril, des personnes migrantes ont réussi à pénétrer dans l'enclave espagnole de Ceuta, à partir du Maroc. Le communiqué officiel des autorités espagnoles disait « Profitant des bonnes conditions climatologiques, 119 immigrants subsahariens, tous des hommes, sont parvenus à entrer à Ceuta par la digue de Bensou, dans le nord du territoire. » Le texte ajoutait que la gendarmerie marocaine avait empêché une centaine d'autres d'entrer en Espagne. Et ils ajoutent encore que 6 migrants souffraient de coupures et de contusions et ont été hospitalisés bien que leur état ne présente aucun caractère de gravité. Bon courage à tout le monde pour la suite. Et si on se faisait un petit bruit qui court ? Pour continuer.
Ouais !
Ouais !
Le bruit qui court.
Le bruit qui court.
Dimanche 17 au soir, peu avant 21h à la centrale de Poissy, dans les Yvelines, un violent incendie a éclaté au deuxième étage d'un des deux bâtiments. Les flammes ont été éteintes à 22h30, soit près d'une heure et demie plus tard. Un prisonnier est mort dans l'incendie de sa cellule. On ne connaît pas les circonstances du drame. 5 autres personnes ont été hospitalisées.
Et le lendemain, lundi 18 avril, dans l'après-midi, en Alsace, un prisonnier avait mis aussi le feu au matelas de sa cellule. Pour l'évacuer de sa cellule, il a fallu 3 flics et ce ne sont pas moins de 21 pompiers qui sont intervenus pour éteindre le feu. Nous ne connaissons pas non plus les raisons de cet incendie.
Mardi 19, vers 10h, un prisonnier s'est retranché sur le toit du centre pénitentiaire du Havre. L'homme a profité de la promenade pour échapper à la vigilance des matons. Il serait redescendu de lui-même vers 13h et se serait laissé menotter sans opposer de résistance. Il a fini au quartier disciplinaire, on ne connaît pas ses revendications.
Et mercredi 20 avril, lors d'une embrouille à la prison de Maubeuge, dans le Nord, un détenu a tenté de planter une arme blanche dans la carotide d'un maton, paraît-il. Ça a eu lieu mercredi matin dans la partie centre de détention de cette tôle. Une bagarre aurait éclaté entre plusieurs détenus et les surveillants seraient appelés en renfort pour calmer les esprits. Mais le prisonnier, armé d'un poinçon, nous dit-on, va tenter de planter dans la gorge d'une des surveillantes son arme. C'est un autre détenu qui l'en aurait empêché, mais c'était, paraît-il, à 1 centimètre près.
Jeudi 21, au centre pénitentiaire haute sécurité d'Alençon, Condé-sur-Sarthe, entre Caen et Le Mans, dans l'ouest Leton, monte entre un maton et un prisonnier. Ce dernier donne un coup de pied au gardien, l'agrippe puis lui donne un coup de poing dans le visage. Le maton a eu le nez cassé. Un peu plus tard dans l'après-midi, un autre tolard aurait insulté et craché sur un médecin. Le matin même, une bagarre est intervenue entre 2 détenus.
Et samedi 23 avril, peu après 10h du matin, une matone de la tôle de Tours en Indre-et-Loire a été blessée à l'arme blanche. Le tôlard de 17 piges aurait porté un violent coup de couteau au visage de la matone, un couteau à bourron, nous précisons. Et un autre maton et un prisonnier majeur ont réussi à maîtriser rapidement le jeune. Mardi après-midi, il aurait été retrouvé mort dans sa cellule alors que des matons venaient le chercher pour l'emmener devant le juge.
Et oui. 26, en début d'après-midi, les sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire ont été appelés pour un incendie dans une cellule du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, au sud de Chalon-sur-Saône, entre Dijon et Mâcon. Le feu s'est situé au premier niveau de la tôle, on n'en sait pas plus malheureusement.
Le 28 avril, maintenant, ces trois surveillants de la prison de Saint-Auban-Routot, près du Havre, qui ont été frappés par des prisonniers dans la matinée, à 3 heures d'écart les uns des autres. C'est pas bien ce qui se passe là-bas, mais à mon avis, ça doit pas être sympa.
Le même jour, au centre de détention de Châteaudun, au sud-ouest de Paris, un détenu placé à l'isolement aurait refusé de rejoindre sa cellule et aurait blessé deux surveillants à l'aide d'un objet, nous dit le Canard local.
Voilà, pour toutes ces petites brèves, il est 21h pile à l'horloge K2000 du studio de Radio Canu. Et maintenant, on va vous rappeler quelques petites informations utiles.
Alors, pour nous écrire, vous pouvez soit nous envoyer un mail sur lapetitecuillère@riseup.net ou à l'adresse atelier d'écriture 91 rue Montesquieu 69007 Lyon. Et aussi, vous pouvez nous laisser des messages, dédicaces, nous demander de passer un morceau pour un de vos proches qui sont dans les tôles de Corba, Mes Yeux, à l'HP aussi, si vous voulez. Et peut-être qu'on a entendu au centre de détention de Saint-Quentin-Falavier. Mais on n'en sait pas plus.
Tôles du Stéphanois.
Ah oui, bah oui,
la bien talo, sûr.
La Talo. La Talo.
La Talo.
Et vous nous laissez un message sur notre répondeur 07 81 35 93 71. Puis vous pouvez aussi nous appeler avant notre émission qu'on fait du coup les deuxièmes, quatrième et cinquième jeudi de chaque mois quand il y a un cinquième jeudi au 04 78 29 26 00. Et on est retransmis sur Radio Duo 89.5, et ben ça concerne aussi les prisonniers de la Talaudière de Saint-Étienne. Et bien on termine sur cette émission en disant qu'aujourd'hui il y a eu deux arrestations ou trois qui ont été vues par tous les manifestants pendant les manifestations contre la loi travail. Voilà, on espère que les gens ils vont pas prendre trop cher. Et on sait déjà qu'il y a eu il y a des gens qui ont déjà pris du ferme sur Lyon et puis ailleurs aussi. Il y a pas mal déjà des violences policières suite aux manifestations de la loi travail. On espère qu'on gagnera. Et puis solidarité à tous les prisonniers et prisonnières des tôles de la région lyonnaise. Camarades, vous avez d'autres choses à rajouter sur ça?
Eh bien, la semaine prochaine, c'est Papillon. Et puis, en attendant, on vous remet les bandes continues.
Ah si, moi, j'ai un truc à ajouter. Vas-y. C'est juste que il y a 15 jours, on parlait du mouvement de florimérologie dans le quartier de femmes, qui était assez important, elles appelaient à envoyer des lettres de soutien à l'administration pénitentiaire pour qu'ils...
Des lettres de soutien à elles, mais contre l'administration pénitentiaire.
De leur mouvement. En fait, elles demandaient des lettres de soutien de leur mouvement et pour que leurs revendications soient obtenues. Et voilà, on n'a pas su plus ce que c'en était. Mais en tout cas, si vous voulez encore, je pense que c'est encore utile de leur écrire et de les soutenir en envoyant les lettres qui sont sur le site de L'Envolée. Alors voilà, si vous avez du temps, n'hésitez pas à envoyer des courriers à l'administration pénitentiaire de Florimérogie. Apparemment, ils étaient écroulés par des milliers de lettres. Voilà. On espère que peut-être que Papillon sera plus la semaine prochaine. Du coup, n'hésitez pas à les écouter. Allez, on vous laisse avec les bandes continues de Radio Canu. Ciao, ciao.
Ciao, bonne soirée.